Bien, on m'a dit de prendre d'autorité, donc je vais prendre d'autorité la parole, parce qu'il y a pas mal de retard, paraît-il. Bonjour à tous, merci d'être là, merci aux membres de Markitsad. C'est un peu intimidant de parler de Philippe Pascal devant Philippe Pascal, mais on va faire avec. It's time to wake up your sleepy senses, c'est la première phrase audible, puisqu'il y en a dans l'introduction qui ne sont pas audibles, vraiment, il faut prêter attention et j'y reviendrai, qui ouvre Dancing Twist, donc le premier album de Markitsad, si on fait abstraction du 45 tours, le premier, j'allais dire, vrai disque qui va être distribué par Pathé. Et elle était assez significative pour moi de cette période où une certaine jeunesse avait envie de réveiller un peu l'essence d'une musique qui semblait s'endormir, notamment avec le rock progressif. Et des choses comme ça. Et donc je l'ai choisi comme titre de cette intervention. Dans les années 90, interrogé par Alain Manneval, dans une émission qui rassemblait à l'époque Philippe Pascal et Pascal Lebert, à une époque où Marc Seberg, je crois, était déjà terminé et où ils venaient de sortir leur album à deux, Philippe Pascal disait « Markitsad, c'était le chaos ». C'était la violence désordonnée qu'il fallait à tout prix qu'on délivre. C'était toute cette accumulation de frustration, de haine au sortir du lycée, cette peur de se retrouver coincé à vie dans l'ennui de la classe moyenne rennaise. Et donc, il était temps, manifestement, pour toute cette génération de réveiller leurs sens endormis et de pouvoir agir à nouveau sur une scène avec une présence. Pour moi, je vais parler un peu de moi du coup, parce que si je parle de Markitsad, c'est parce que Markitsad a été l'un des premiers groupes qui a marqué mon adolescence. Je suis un petit peu plus jeune que les gens de cette scène-là. Et pour moi, Markitsad n'a jamais été un groupe punk. Je n'ai jamais ressenti Markitsad comme un groupe punk. Moi, je suis arrivé à écouter de la musique en 79-80, le punk était déjà pratiquement mort, et même Starshooter faisait du rock'n'roll et non plus du punk à cette époque-là. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un groupe punk. En revanche, c'est un groupe qui m'a toujours parlé parce que ce qu'il disait, ce qu'il y avait dans les textes, ce qu'il y avait comme communication, ce côté européen qui était à la fois dit, revendiqué ou pas revendiqué, il était réel pour moi. Et de la même manière, non seulement Markitsad n'a jamais été un groupe punk, mais ça n'a jamais été ni un groupe breton, ni un groupe rennais. Ça a été un groupe de musique qui me touchait quelque part. Et donc cet attachement à Rennes, qu'on peut peut-être sentir quand on vient parler de Markitsad à Rennes devant des Bretons, moi qui viens de Lyon, et donc plutôt la patrie de Starshooter, je n'ai jamais été vraiment concerné par ce côté breton de la musique de Markitsad, qui pour moi n'a jamais sonné bretonne d'une manière ou d'une autre, ni dans ses textes, à part Rue de Siam, que j'ai mis 30 ans à découvrir et à parcourir, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça que je suis allé à Brest pour la première fois. Donc ce qui m'intéresse ici, après la brillante communication qui a été faite juste avant, dont j'ai loupé un peu le début, c'est de parler de Markitsad de l'intérieur, de la matière musicale. Je n'étais pas là quand ils ont créé, évidemment, je n'étais pas aux répétitions, j'ai écouté les disques, j'ai entendu des choses qu'ils ont pu dire, j'ai lu des choses qu'ils ont pu dire depuis les années 80, je relisais encore des choses dans un Rock et Folk de 1980 hier, je crois que c'était Christophe Nick, mais peu importe, qui disait qu'à cette époque-là, en 80, il y avait déjà 13 musiciens différents qui étaient passés dans Markitsad depuis les débuts du groupe. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer d'aller chercher un petit peu. Je suis musicologue, je ne suis pas historien, je suis musicologue. Donc ce qui m'intéresse, c'est la matière musicale. Et quand on traite d'une matière musicale avec texte, de s'intéresser ici au texte. Et donc, écrire. Philippe Pascal a dit aussi un jour, alors puisqu'il est là, il me contredira si parfois il revient sur ses propres propos, parce que je les ai pris dans des articles de journaux, et on sait très bien que parfois les journalistes écrivent un peu ce qu'ils veulent et non pas ce qu'on leur a dit. Ça arrive à tout le monde, ou reformule des phrases. On utilisait des références sans but qu'on intégrait à notre musique. C'était une nouvelle façon d'écrire, de la poésie brute, parugueuse. Écrire ne vient pas naturellement chez moi. Ça, il l'a dit à moi, je l'ai enregistré, donc je sais que ça a été dit. Franck Darcel, de son côté, disait « On n'était pas politique dans le sens classique du terme, on était révolté. Pas au sens marxiste du terme, mais plutôt tel l'homme révolté de Camus. Révolté contre notre pauvre condition humaine. On lisait pas mal de trucs, on improvisait. On manquait cependant de culture philosophique, alors parfois on maniait des concepts un peu de travers. » Et Philippe Pascal, d'ailleurs, on verra Franck tout à l'heure, et Philippe Pascal ne pense pas, ou en tout cas a dit un jour qu'il ne pensait pas être un poète, et qu'il est venu au chant d'une part et à l'écriture par une sorte de nécessité. Et la satisfaction qu'il ressentait en arrivant comme chanteur, quand on chante, il faut quand même quelque part... j'ai été dans un tout petit groupe lyonnais, chanteur, et si on ne ressent pas ce qu'on chante, ça n'a pas de sens. Ce qu'on chante, ça n'a pas de sens. Et donc cette nécessité d'aller au-delà de ce que les textes de Marquis de Sade, quand il est arrivé, disaient. Alors j'entre pas dans les détails, mais cette nécessité qui a fait qu'il s'est mis à vouloir chanter ses propres mots. Mais l'acte d'écrire a toujours été assez douloureux, une sorte de souffrance, de faire sortir des choses qui n'étaient pas naturelles, si bien que les textes ont presque toujours été écrits dans l'urgence. La musique était faite, et si je me souviens bien de ce qu'on a dit, je l'ai réécouté, donc je m'en souviens quand même pas trop mal, de ce qu'on s'est dit il y a 6 ans, c'était souvent d'abord du yaourt, et du yaourt émergeait peut-être des expressions, des mots, des phrases qui se constituaient en texte, et qui pouvaient d'ailleurs au fil du temps, même sur un texte une fois qu'il était enregistré, évoluer, pour qu'un morceau devienne, même au niveau du texte, radicalement autre chose. Et ça, je vais en parler. Il fallait la nécessité du studio, et que là, il fallait bien qu'il y ait des choses qui soient chantées sur les musiques, pour que les textes soient enfin finalisés, mais il y a toujours eu une sorte de douleur de l'écriture. Au-delà de cette douleur de l'écriture, il y a des problématiques qui se posent. Marquis de Sade chante dans le premier album un seul morceau en français, qui est « Conrad Veidt ». Les autres sont en anglais, il y a un peu d'allemand ici ou là, mais c'est surtout de l'anglais. Pour chanter en français, dit Philippe encore une fois, il faut un type de mélodie particulière. Et comme il n'y avait pas vraiment de mélodie dans Marquis de Sade, si on écoute Marquis de Sade, il n'y a pas, même au niveau du chant, vraiment de mélodie, il fallait vraiment que j'adapte les textes et que je fasse une espèce de rythmique, de percussion vocale. Et c'était assez dur. C'est même allé jusqu'à des outrances dans certains textes, ça je cite, où je suis allé beaucoup trop loin. Alors ça, c'est dans l'entretien qu'on a eu il y a 6 ans, mais à ce moment-là, tu ne m'as pas dit dans quel texte tu estimais être allé beaucoup trop loin dans les images ou dans les outrances. D'accord. Donc, alors là, je ne parle que du premier, donc bon. On parlera des... Mais il y a quelques... il y a malgré tout... Je ne vais pas faire ici un champ lexical pour savoir si on parle beaucoup plus de froid, de mort, etc. Simplement, il y a une expression, et j'ai posé la question il n'y a pas si longtemps que ça, qui est « die for a little while », qui m'a toujours assez marqué, puisque, je peux l'avouer aujourd'hui, je l'ai repiqué pour un de mes morceaux qui n'a jamais marché, donc de toute façon, il n'y a pas de souci avec ça. Le morceau s'appelait Death, d'ailleurs, donc bon, on était carrément là-dedans. Et en fait, ce Die for a Little While, qui est dans un morceau du deuxième album, j'ai redécouvert qu'il était déjà utilisé quand j'ai acheté le CD, parce que j'ai jamais eu le 45 tours de Dancing Twist, dans lequel il y a un morceau qui s'appelle Die, où il y a encore Die for a Little While ou Die for a While. Et l'autre jour, je ne l'avais jamais entendu, je dois bien l'avouer, j'ai écouté peut-être pour la première fois Dancing Twist au casque, histoire d'aller chercher un peu des choses dans la musique. Et dans l'introduction de Motion Memories, j'entends très au fond dans le mix Die for a While, Die for a While dans l'introduction. Donc je pose la question à Philippe, je lui dis c'est amusant, c'est amusant. C'est curieux de voir cette expression. Et donc l'expression est « tout est parti de la petite mort », me dit-il. J'ai toujours bien aimé cette idée pour évoquer l'acte d'amour, l'orgasme, mais l'expression me semblait un peu vulgaire. Alors de glissements successifs, de petite mort en little death, mourir pour un petit moment, j'en suis arrivé à to die for a little while, à prendre au second degré ou au premier degré, ou les deux comme je l'espère. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je relise tous les textes et que j'essaye de voir s'il n'y a pas des deuxièmes degrés qu'on peut prendre aussi au premier dans l'ensemble, ce que je n'ai pas encore fait de manière définitive. Et c'est dans un morceau qui n'était au départ qu'une maquette, Die, qui a depuis été donc édité, qu'on trouve cette expression. Le morceau s'appelle Die, titre ô combien sinistre peut-être, mais j'ai toujours espéré que l'auditeur irait gratter sous la surface des apparences. Donc il faut que, si vous réécoutez Die, vous alliez gratter sous cette surface des apparences pour essayer de comprendre un petit peu les textes et le sens caché, ou parfois, peut-être même, juste une musique des mots et une absence de sens. Et donc ça, je l'ai retrouvé aussi. Je chante en anglais, c'est peut-être une histoire de pudeur, il y a des choses que je ne pourrais pas dire en français ou bien que je ne suis pas encore prêt à dire. C'est en 1980, c'est une interview dans Rock et Folk. Encore une fois, les interviews dans Rock et Folk ou Best, je ne sais pas comment pratiquer les journalistes, mais on peut les prendre avec un certain recul. Mais il revient sur cette chose, travailler d'abord sur le rythmique vocal, remplir la grille avec les mots. Je n'ai pas une voix très mélodieuse, je joue de la percussion vocale. C'est ça mon instrument. Et on peut réécouter le chant dans Marquis de Sade avec cette idée de rythmique et de percussion vocale de manière un peu différente. Alors, écrire, c'est une chose, il y a des influences, on a parlé souvent d'expressionnisme, de choses comme ça, mais il y a surtout un amour pour certains peintres, pour Egon Schiele, pour certains textes. Et d'ailleurs, quand on voit le concert qui a été donné au mois de septembre, avec les films derrière, on avait, pendant pratiquement tout Conrad Veidt, on avait le cabinet du docteur Caligari qui était diffusé derrière, qui était assez significatif quand on sait l'importance de ce film aussi. Les influences musicales, elles sont multiples. Alors mon prédécesseur, Yannick, en a déjà parlé. On a Bowie, Philippe Pascal m'a parlé de Hunky Dory comme un disque qui l'a marqué, comme un disque auquel d'ailleurs, et le rôle important qu'a eu Gilles, enfin Anzia, dans cette... arriver vers le rock, puisque c'est, je me souviens bien, en tout cas, c'est ce que tu m'avais dit il y a ces années-là, c'est Anzia qui t'a amené vers des disques de rock, alors que toi tu écoutais tout autre chose par ton background familial, j'allais dire. Télévision, le krautrock. Alors là, j'ai une toute petite interview de Franck.
Je crois pas, enfin au tout début, ça faisait partie de nos groupes préférés, tout à fait, mais on était encore sous influence un peu de ce qui se passait en Angleterre, parce qu'on allait de temps en temps. Et moi j'avais la chance d'avoir un oncle d'Amérique, donc j'ai passé 3 mois de l'été 78 à traîner dans tous les clubs, CBGB, Max et Uraz, et là j'ai vu l'avenir. Quand je suis rentré en Bretagne après, j'ai arrêté les études de médecine, et je me suis dit Marquis de Sade, voilà, ça va devenir quelque chose de sérieux.
Alors on a tout un faisceau d'influences évidemment qui se crée, et parmi celles-là il y a cette influence du groupe The Phillies aussi, qui est peut-être moins connue que Television ou que le krautrock comme Kraftwerk, etc. Je vous en mets juste un petit bout histoire d'avoir ça dans les oreilles. Le son est pourri, hein, parce que je l'ai piqué sur YouTube pour qu'il y ait l'image. Mais c'est punk. Voilà, un très très bref extrait des Phillies. Ce que dit Franck en ce qui concerne la musique, il a beaucoup composé, d'autres ont composé, Thierry Alexandre a signé beaucoup de morceaux, Anzierne a signé quelques-uns aussi, mais il y a pas mal de morceaux signés d'Arcel en tout cas. Il dit de la musique de Marquis de Sade, et c'est ce qui fait aussi quelque part son originalité, c'est-à-dire qu'on peut, si on creuse, aller chercher les sources, mais finalement l'exploitation de ces sources fait que est sortie de tout ça une musique assez originale. En tout cas... inouï au sens premier du terme. Il y a beaucoup de couplets sur un seul accord. Il y a même des morceaux sur deux accords. Conrad Veidt, par exemple. Si on oublie la fin et si on oublie le début, tout ce qui est chanté est pratiquement sur deux accords. C'est très autoroutier comme musique. C'est Franck Darcel qui parle. Alors, je ne sais pas si avec autoroutier, entre guillemets, il faisait référence à Autobahn de Kraftwerk, mais en tout cas, peu de changements d'accords et des riffs. Une construction assez brute et aussi beaucoup de dissonances. De fait... les morceaux de Marquis de Sade fonctionnent beaucoup autour de boucles, de riffs ou de structures d'accords extrêmement simples qui rapprochent de fait cette écriture, alors de manière consciente ou inconsciente, peu importe, de certaines formations de krautrock comme Neu par exemple, plus que Kraftwerk à mon sens. Les enchaînements d'accords sont relativement éloignés des structures que je vais appeler de type tonal, la tonalité telle qu'on entend d'habitude, ou pour faire plus simple, des grilles de blues qu'on retrouve dans des groupes de rock'n'roll. Et parfois même dans des groupes de punk aussi. Mais ce point mériterait d'être développé. Donc les couplets de Conrad Veidt, de Who Said Why, de Skin Disease, de Set in Motion Memories fonctionnent peu ou prou de cette manière-là. Avec aussi des caractéristiques d'écriture, qui sont des caractéristiques d'écriture de guitare. Et là, je me suis amusé, alors c'est un son de synthétiseur hein, qui reprend un son de guitare, à tenter de reproduire un petit peu la manière dont on trouve certaines manières de jouer de la guitare. Alors, on ne voit pas bien, mais pour les guitaristes, j'ai mis les tablatures. C'est-à-dire que l'idée, c'est de jouer une note, la mélodie en haut, ta-ti-ta-ta-ti, avec à chaque fois, en résonance, une corde à vide qui va être jouée en doublure et qui va servir de pédale sur cet ensemble et qu'on va changer. Et cette pratique-là, qu'on trouve dans ce morceau, qui est Skin Disease, on le retrouve aussi ici. Qui est le début de Conrad Veidt, exactement le même procédé. Alors, qui a été doublé ensuite au piano lorsque Turboost est arrivé en studio, en ajoutant des petites choses. Il a ajouté des petites notes dans les accords aussi. Mais fondamentalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et cette manière d'écrire qu'on va trouver de nombreuses fois, y compris dans l'écriture des structures harmoniques, elle va, chez Darcel, se modifier pour arriver, par exemple, à ces choses arpégées. On a vu que c'était joué avec les cordes graves en résonance, avec une mélodie. Il va passer à une sorte d'arpège. Alors là, j'ai même proposé deux types de doigté. À mon avis, mais bon, Franck n'est pas là, il nous le dirait, c'est plutôt celui-ci qui est utilisé par Franck, celui de la ligne du bas. Et c'est un peu plus long que l'origine, c'est « Back to Cruelty ». Ce qui, à tempo réel, est assez costaud à jouer sur la durée, parce que rythmiquement, il faut tenir la chose. Et qui est une chose qu'on va retrouver, même si le morceau est signé, cette fois-ci, Alexandre, qu'on va retrouver, Thierry Alexandre, qu'on va retrouver dans Submarines and Iceberg, le même principe d'écriture. En jouant le Ré à la fois sur la cinquième case de la corde de La et encore David, pour avoir ces résonances qui jouent. Et on a cette alternance durant quasiment tout le morceau. Alors, réimaginez-le avec le son de l'album, mais on est dans ce type d'écriture-là. Et il y a quelques années déjà, j'ai écrit à Franck Darcel, je lui ai dit c'est assez curieux, parce qu'il y a un morceau dans le premier album de Dao qui s'appelle « L'été ». Filtre d'amour et contre-jour, etc. Où le jeu de guitare est le même, et je lui dis c'est assez étonnant cette continuité, et il m'avait dit à ce moment-là, bingo, parce qu'en fait ce morceau, il était plus ou moins composé pour un hypothétique troisième album de Mark Itzhak, qui de fait n'a jamais vu le jour, et quand on voit les gens qui jouent sur le premier DAO, globalement c'est Mark Itzhak en Philippe Pascal. Et c'est à peu près ça, et donc sans les textes de Philippe Pascal et avec ceux de DAO. Lorsque j'ai rencontré Pierre Corneau, qui joue maintenant donc dans Les Nus, il m'avait dit d'ailleurs que sur le premier Marx Berg, et notamment un morceau, le tout premier, jour après jour, il avait tenté d'adapter cette écriture de guitare à son jeu de basse. En fait, donc il y a une sorte de filiation qui se crée là aussi. Et c'est surtout sensible en fait sur le premier album de Marx Berg, 83. Ça l'est beaucoup moins après sur les autres. Il y a une autre chose qui se passe, et là Philippe va se revoir il y a quoi, 4 jours. J'ai pris 15 secondes.
Et je me suis rendu compte ce matin même qu'en un an et demi, un morceau qui était sur le premier album qui s'appelait Boys Boys était parti dans une direction free jazz complètement.
Mais ouais, donc il y avait de la matière.
Voilà, donc très très court, mais juste ce petit passage m'a conforté en fait dans ce que je pouvais analyser, puisque évidemment j'ai l'album et puis j'ai aussi quelques pirates qui traînent ici ou là, qu'on trouve assez facilement d'ailleurs sur les pages Mark Itzhak, Marx et Berdadix ou je sais plus quoi sur Facebook, il y a souvent des liens. Et c'est assez curieux parce que déjà en 1980, tu disais j'aimerais que les concerts soient plus élastiques, il faudrait prendre des risques, des libertés avec la musique, faire en sorte qu'il n'y ait plus que des structures rythmiques sur lesquelles on puisse broder. J'aimerais tout simplement un canevas. Il n'y a que le saxophone qui puisse jouer différemment d'un soir à l'autre, mais pour l'instant, nous avons besoin d'une base solide en 80. Mais malgré tout, si on explore quelques-uns des concerts, si on prend ce morceau par exemple, qui manifestement, si je me... la remise en place, même pour le concert du 16 septembre, a posé des problèmes. Et comme je te l'avais dit, j'ai rejoué il y a une dizaine d'années de ça l'intégralité de Dancing Tweets avec des étudiants, puisque à la fac de Dijon, je m'occupais des pratiques, et donc on reprenait des albums de groupes qui ont marqué dans un festival qui s'appelait Novosonic et qui servait un petit peu à introduire la scène nouvelle du rock indépendant. Et donc on avait repris Dancing Twist. Le seul morceau qu'on n'a pas refait, c'est Japan Espy. On n'y est jamais arrivé. Donc ça donne ça sur l'album. En 81, le 11 avril, à Genève, c'était une émission, si j'ai bien compris, enfin c'était un concert enregistré pour une radio. Ce qui fait que le son est très bon. Il donnait ceci. c'est la même. Tum, 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 mais... Là, les duettistes au saxophone. Alors, de la même manière, un morceau comme Boys Boys, dont tu parlais, qui donne ceci, j'ai coupé l'introduction, qu'on a sur l'album de cette manière-là. Assez soft, je dirais. Simplement, il y a ceci à la fin. À la fin, on a ce fameux enchaînement de saxophone qui va entraîner, qui va conduire sur Smiles. Donc, il n'y a plus rien, c'est relativement libre, sans être vraiment free au sens où on l'entend, dans le jazz en tout cas. Mais sur scène, hop, ça donne ceci sur scène. En 81, à Genève. Fondamentalement, sur scène, l'apport des deux saxophonistes va modifier un certain nombre de choses dans le son, dans la manière de jouer. Yannick disait tout à l'heure qu'il venait plutôt de la scène free jazz, ces deux saxophonistes, et ils vont faire des choses... Alors ça, c'est le début. Mais voilà la fin. Alors cette fois-ci, la fin, elle est à Rennes. Le son est moins bon. Et là, on est complètement dans le free jazz. Et c'est exactement ce que tu disais lundi, je crois, à la télévision. Si on gratte un peu la discographie de ces deux saxophonistes, ils ont produit au moins un disque ensemble, qui de mémoire s'appelait Deux, je ne l'ai pas retrouvé dans ma discothèque alors que je l'ai. Et on a ça exactement. Mais ça peut aller encore plus loin. Puisque des morceaux vont pouvoir évoluer, voire être réenregistrés, alors que la base est la même. C'est le cas de Henry, qui devient Said dans le deuxième album. On est dans un morceau qui a été manifestement travaillé, retravaillé. Tu confirmeras ou pas cette chose-là, mais voilà. Henry. Et voilà ce que ça devient, avec évidemment une production différente, Steve Nile, l'apport de saxophoniste, de musique différente, mais si vous écoutez les mélodies, oh Henry, I tell you, na 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 Alors on est un peu plus proche du trip funk blanc que voulait Darcel ici par rapport à Henry, mais il y a quand même une ressemblance, oui. Oui, oui, je t'en prie.
Ça devait s'appeler Henry, c'est pas une arnaque se servir d'un morceau qu'on avait déjà pour en faire un...
J'ai pas dit ça, hein.
Non, mais je sais bien que t'as pas dit ça. Mais c'est simplement le label qui a demandé pour une histoire de... Non.
Oui, ça devait s'appeler Henry, mais c'est le label qui a...
Ça s'appelait Henry. Seulement, on était en licence chez Pathé Marconi, et si ça s'était appelé... le label n'aurait le label CDH n'aurait pas eu droit à la même avance au même.
D'accord, donc il y a une question de business, voilà.
Ouais. En fait, je me suis retrouvé la veille de l'enregistrement à devoir prendre
un texte.
Alors que moi, je m'attendais tranquille, il y a LOU à réenregistrer, j'ai rien à faire.
Quoi, la création des fois tient à des choses, beaucoup au business en tout cas, j'ai déjà écrit là-dessus. Donc nous voilà avec Henry. Il y a 45 tours inédits que Philippe m'avait, dont Philippe m'avait envoyé le MP3, où on voit par exemple à la fin que le côté bruitiste est vraiment beaucoup plus destroy, pour employer un terme punk, qu'il ne l'est sur l'album définitivement. Et puis surtout, je crois que c'est un des morceaux phares de ce premier disque. Sur le 45 tours, c'était encore Sergei Papai à la basse, le texte en allemand au départ. Hein. C'est ce que m'a dit Philippe. Alors après, si vous n'êtes pas d'accord, hein, c'est pas. Mais voilà. Et Philippe Brunel à la deuxième guitare, hein, à ce moment-là. Et donc, ça a été enregistré à Brest, ce 45 tours. Il n'est jamais sorti. Il est sorti sur l'album. Non. Il y a des choses qui sont dites au début. Le texte en allemand est tiré du Faust de Murnau. Donc, depuis, il y a eu le concert, donc il y a les images et il y a le DVD, donc on les voit. Mais le premier, alors j'ai un accent allemand, c'est même pas la peine, mais Todest Eng und Todest Raserei erfüllte die Stadt. So gehe an ein Kreuzweg und rufe in ein dreimal Konrad Veit, Konrad Veit, Konrad Veit. Hein, c'est ce que dit finalement Darcel, je crois, sur l'album au moins. Et puis il y a un truc assez curieux au milieu. Où on entend un type qui dit « Est-ce que vous êtes coupable ou non coupable ?» Moi, j'avais entendu que ça, avec mon maigre allemand. Je ne savais pas du tout d'où ça sortait. Et en fait, c'est le procès Eichmann. C'est exactement ce qu'on entend sur le pont de Konrad Veit, et qui est une idée... alors, d'après ce que tu m'as raconté, vous étiez allé écouter ça chez le disquaire, l'enregistrement de ce procès, et puis l'idée d'intégrer ça est venue là-dessus. Il y a une autre intégration qui est dans Skin Disease, je crois, qui est Radio Prague, qui avait été enregistrée et intégrée là-dessus aussi. Et donc, de la même manière, Konrad Veit va subir ou connaître, ça dépend sur quel angle on se place, des modifications, sur scène aussi, juste un tout petit bout. En avril 81 à Rennes. C'est le son d'un pirate, hein, d'époque. Donc, je ne vous parlerai pas de la pochette. Egon Schiele, j'ai trouvé cette chose-là, c'est peut-être pas le dessin qui a été... mais je trouvais qu'il y avait des ressemblances entre ça et puis ce qui a été fait sur la pochette. Il y a simplement quelque chose qui a toujours gêné Philippe, qui est les deux S ici, qui était un petit peu d'un symbolisme douteux. Mais en tout cas, c'est d'après un dessin d'Egon Schiele, je crois, que tu avais montré. Alors, tu m'avais dit que c'était une couverture des Cahiers de Lerne consacrée à l'expressionnisme. J'ai contacté les Cahiers de Lerne pour retrouver. Ils m'ont dit qu'il n'y a jamais eu de numéro sur l'expressionnisme chez les Cahiers de Lerne. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Voilà. Merci.
Merci Philippe, hein, pour cette communication.